Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, Félix Tshisekedi lance un dialogue inclusif pour favoriser la paix et la cohésion nationale en RDC. Le chef de l'État a annoncé sa décision au cours d'une audience accordée aux chefs de confession religieuse hier vendredi à la Cité de l'Union africaine ici à Kinshasa. Vous suivrez quelques réactions dans ce journal. Encore 10 nouveaux patients guéris de la maladie à virus Ebola en Ituri. C'était hier vendredi au centre de traitement d'Ebola de Nizi dans le territoire de Djougou. Le gouverneur militaire de l'Ituri a invité ces survivants à devenir des relais de sensibilisation au sein de leur communauté. Plus de 7 mois après la signature, le 4 décembre 2025 à Washington, de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les résultats se font toujours attendre. Aucune avancée sur le terrain, si ce n'est les combats qui se poursuivent au nord et sud Kivu. Nous en parlons dans ce journal avec Papi Kasereka, analyste des conflits dans l'est de la RDC. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Comme vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé son intention d'engager un dialogue inclusif en RDC. Il a déclaré ce vendredi à Kinshasa, lors d'une rencontre avec les responsables des confessions religieuses à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de ces échanges, le cardinal Fridolin Ambongo, s'exprimant au nom des chefs religieux, a salué cette initiative qu'il considère comme une voie de sortie à la crise politique et sécuritaire que traverse le pays. Le prélat catholique a également appelé l'ensemble des acteurs sociopolitiques à soutenir cette démarche en faveur de l'apaisement et de la cohésion nationale. Nous l'écoutons dans des propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président de la République qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Nous pensons que, après que le président a levé cette option, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour que cette initiative puisse aller de l'avant, porter de fruits, pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix.
Hormis le cardinal Fridolin Ambongo, quelques autres princes de l'Église ont pris part à cette rencontre, notamment le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, le président national de l'Église du Christ au Congo, ECC, le révérend André Bokondoa, le secrétaire général adjoint Eric Nsenga, le représentant des Églises de réveil au Congo, Ejiba Yamampia, ainsi que le représentant légal de la communauté islamique en RDC Komiko, Tchèque Abdallah Mangala. Côté réaction, le PPRD, parti de l'opposition politique, appelle plutôt à la prudence. Ferdinand Kambéré, membre du FCC et haut cadre du parti cher à Joseph Kabila, pense par ailleurs que, cette fois-ci, le chef de l'État a compris le cri du peuple congolais et les conseils de la communauté internationale à propos d'un dialogue sans tabou entre les Congolais. Suivez Ferdinand Kambéré.
Nous pensons que cette fois-ci, ça ne sera pas une audience de plus qui, comme celle de Bujumbura, qui n'a été que la poudre aux yeux jetée au peuple parce qu'on voulait contourner la date du 8 juillet et que cette fois-ci, ce n'est pas par rapport à la date du 22 juillet lancée par l'opposition que le président est en train d'organiser quelque chose de mascarade, parce qu'en suivant le ministre des Communications, nous restons sur notre prudence et sur nos gardes. Lorsqu'il parle que de conditions à mettre dans l'ordonnance qui va convoquer ce dialogue national inclusif, nous passons cette fois-ci que le chef de l'État a compris non seulement les cris du peuple, les cris de l'opposition, les conseils de la communauté internationale, les organismes et surtout les résolutions même du Conseil des Nations Unies où les Congolais se mettent sur la même table et parlent sans tabou, parlent sans condition.
Le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado, quant à lui, salue le courage du chef de l'État pour cette option prise pour un dialogue inclusif à toutes les parties impliquées dans la crise. Jean-Claude Katende recommande de jouer un jeu clair et franc pour trouver un compromis. Jean-Claude Katende.
L'option prise par le président Tshisekedi pour les dialogues inclusifs est une très bonne nouvelle, pas seulement pour les politiciens, mais pour l'ensemble du peuple congolais. C'est pour ça que je tiens à féliciter le président de la République pour ce courage qu'il a pris pour aller sur cette voie du dialogue inclusif. Et je pense que cela permet à ce que les Congolais puissent espérer dans la reconquête, n'est-ce pas, de la paix dans notre pays. C'est ici aussi l'occasion de dire que le dialogue étant maintenant la chose conquise, il est important que la majorité au pouvoir ne multiplie pas les intrigues pour contrôler ce dialogue comme cela avait été à l'époque, n'est-ce pas, de la conférence nationale souveraine. En même temps aussi, les opposants comme les membres de la rébellion et la société civile, chacune de ces parties doit pouvoir jouer un jeu clair dans le sens, n'est-ce pas, de faire un effort pour que les compromis soient trouvés.
Dossier signé Jean-Désiré Kanyama. En Ituri, 10 nouveaux patients guéris de la maladie à virus Ebola ont quitté vendredi le centre de traitement d'Ebola de Nizi, situé à une trentaine de kilomètres au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Avec ces nouvelles guérisons, le nombre des survivants pris en charge depuis le début de cette 17e épidémie s'élève désormais à 412. Présent à la cérémonie, le gouverneur militaire de l'Ituri a invité ses survivants à devenir des relais de sensibilisation au sein de leur communauté. Martial Kizabiamongo.
Sourire aux lèvres et certificat de guérison à main, 10 survivants de la maladie à virus Ebola ont quitté vendredi les centres de traitement d'Ebola de Nizi. Présent à cette cérémonie, le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Kasongo Mulumba Batoka Gabi, les a félicités pour leur courage et leur détermination à suivre les traitements jusqu'à la guérison. Il les a également encouragés à reprendre une vie normale et à témoigner auprès de leur communauté qu'Ebola est une maladie bien réelle, mais qu'elle peut être soignée lorsqu'elle est prise en charge à temps. Je cite, retournez dans vos familles et dites à vos frères et sœurs qu'Ebola existe et qu'il est possible d'en guérir grâce à une prise en charge précoce. Fin de citation. De leur côté, les survivants ont exprimé leur gratitude aux équipes médicales engagées dans la riposte, saluant leurs efforts pour sauver des vies. Selon les bulletins d'information de l'Institut national de santé publique, 2181 cas confirmés de la maladie à virus d'Ebola ont été enregistré jusqu'à présent. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis cette alerte des Nations Unies, le transport des dépouilles d'Ebola vers les villages d'origine pour leur inhumation. Ce problème intervient alors que les autorités sanitaires en RDC intensifient la lutte contre Ebola, raison pour laquelle l'ONU tire la sonnette d'alarme sur cette pratique profondément ancrée dans les traditions, car ces gestes d'amour si simples peuvent parfois devenir un facteur de propagation de la maladie. Pour l'ONU, cette coutume, bien qu'importante pour les familles, risque de favoriser la transmission du virus et de compliquer les efforts de riposte. Le point dans ces papiers de Gisèle Cage, rendu par Gloriane Lepea.
En RDC, la lutte contre Ebola passe aussi par la gestion des rites funéraires. Les Nations Unies mettent en garde contre le transport des dépouilles d'une localité à une autre, une pratique qui peut favoriser la propagation du virus. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que les virus restent très contagieux après les décès et appelle à concilier le respect de traditions avec les exigences de santé publique. À ce jour, plus de 2070 cas et près de 800 décès ont été enregistrés. L'OMS s'inquiète également du fait que plus de 8000 nouvelles infections sur 10 sont détectées en dehors de contacts déjà identifiés, preuve que certaines chaînes de transmission échappent encore à la surveillance. Les autorités misent désormais sur la sensibilisation de communautés afin d'assurer des funérailles sécurisées. Pour l'ONU, la confiance de la population est indispensable pour freiner la propagation de l'épidémie.
Santé encore, paralysie presque générale au centre de transfusion sanguine provinciale du Maniema. 7 mois aujourd'hui que ce centre provincial ne dispose d'aucun intrant. Une situation qui handicape le bon fonctionnement de plusieurs hôpitaux et centres de santé de référence qui reçoivent des cas qui nécessitent la transfusion. Le médecin coordonnateur de ce centre exprime sa crainte suite à la persistance de cette situation, surtout que le pays est en épidémie d'Ebola et que les provinces voisines du Maniema notifient déjà des cas avec des morts. Docteur Jean Bourré d'Isenga appelle le gouvernement central et ses partenaires à résoudre en urgence ce problème en dotant les centres de transfusion sanguine du Maniema des intrants pouvant leur permettre d'effectuer leur travail. Docteur Jean Bourré d'Isenga s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Jusque là, la situation n'a pas tellement changé. Au regard de cette situation, nous exprimons déjà notre crainte parce que, vous voyez, le contexte actuel, le pays est dans l'épidémie d'Ebola. Et déjà, la ville de Kisangani, qui est une ville très fréquentée par les habitants de Kindu, a notifié ses premiers cas d'Ebola. Pour raison de proximité entre Kindu et Kisangani, nous craignons aussi qu'il y ait des cas de virus qui seront notifiés ici chez nous. Et nous savons que la maladie à virus Ebola, c'est une maladie hémorragique qui entraîne des anémies. Actuellement, si on notifiait un cas à Kindu, nous serons dans l'impossibilité totale de disponibiliser le sang pour les patients. Et non seulement la situation d'Ebola, d'abord nos mamans qui accouchent, c'est chaque jour qu'il y a des accouchements, c'est chaque jour que nous perdons des vies par manque de sang dans notre ville de Kindu et dans la province tout entière. Voilà pourquoi nous lançons encore un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté qui peuvent venir en aide les centres de transfusion sanguine provinciale pour que nous puissions quand même disponibiliser le sang.
Au Nord Kivu, au moins 7 civils ont été tués lors d'une attaque perpétrée jeudi dans le village de Hohe, situé dans le groupement de Tongo en territoire de Rutshuru. L'information a été confirmée ce samedi par plusieurs notables locaux après recoupement des différentes sources. Selon ces notables, les auteurs présumés de cette attaque seraient des combattants de l'FCM-23 en patrouille dans la zone. Les détails avec vous, Elachem Balou.
L'incident s'est produit vers 9h local, les jeudi, dans les paysannats de Owe, à proximité de Rushege, chef lié du groupement de Tongo. D'après les sources locales, un groupe de civils composé d'hommes et de femmes s'est rendu au champ lorsqu'il a été intercepté par des hommes armés présentés comme des combattants de l'FCM-23. Au moins 3 personnes auraient été tuées sur place. D'autres victimes, grièvement blessées alors qu'elles tentaient de fuir, auraient succombé par la suite. Leurs corps ont été retrouvés vendredi, portant à 9 les bilans provisoires des personnes tuées. Depuis plusieurs mois, les groupements de Tongo ainsi que les entités voisines sont confrontés à une recrudescence des violences armées. La situation est notamment marquée par les opérations menées par l'FC-123 contre les rebelles des FDLR et leurs présumés collaborateurs. Bien qu'une relative accalmie soit signalée dans certains secteurs, des incursions d'hommes armés dans les villages, des attaques contre les voyageurs ainsi que des violences visant les populations dans leurs champs continuent d'être rapportées chaque semaine dans plusieurs localités de la chefferie de Bouito, dont fait partie le groupement de Tongo.
Restons dans la province. Après plus d'un an d'enquête et de consultations sur le terrain, la commission ad hoc mise en place par le gouverneur du Nord Kivu pour examiner les limites autour du parc national de Virunga a remis hier son rapport. Les investigations menées dans les chefferies de Bachou et de Mbao, ainsi que dans les secteurs de Rwenzori et le groupement de Watalinga dans les territoires de Beni ont permis de recenser 17 conflits. Pour y mettre fin, la commission recommande notamment une révision de la loi qui fixe les limites du parc, un texte jugé ancien et devenu inadapté à certaines réalités du terrain. Le magistrat Gustave Maïla, président de la commission ad hoc, explique au micro de Martial Papimoukeba.
Ce que les gens doivent retenir, le parc national de Virunga, c'est un patrimoine de l'UNESCO, c'est un patrimoine international, déjà c'est notre parc. Alors, il y a de petits conflits qui concernent de limites entre la population et le parc national de Virunga. Nous sommes aboutis à des conclusions telles que il y a des espaces, des populations qui ont été occupés par le parc national, d'une part, et de l'autre part, il y a aussi des espaces du parc qui ont été occupés par la population. Partant de toutes ces réalités, source des conflits dans le Nord Kivu, précisément dans l'espace béni, il a été formulé des recommandations telles que la loi qui crée le parc national de Virunga, c'est une loi ancienne qui mérite une modification en termes de droit, une révision. Et ce n'est pas la commission qui viendrait à cette révision, ce n'est pas non plus le gouverneur des provinces, cette tâche-là est réservée au législateur. Et le législateur, c'est le Parlement.
Ces investigations ont notamment mobilisé les chefs coutumiers, les notabilités locales, les services d'archives, la société civile, les députés provinciaux et d'autres parties prenantes.
Actualité internationale.
À Sao Tomé et Principe, archipel lusophone niché dans le golfe de Guinée, près de 142 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire le prochain président entre quatre candidats. Le sortant Carlos Villanoa brigue un second mandat, mais il a perdu le soutien d'une majorité de son parti suite à une rupture avec son ancien allié, le premier ministre limogé, en 2025. Cette crise a plongé le pays dans une période de fortes tensions politiques dont les Saint-Tomiens espère tourner la page avec la présidentielle du 19 juillet avant des législatives prévues en septembre.
L'invité.
Plus de 7 mois après la signature, le 4 décembre 2025 à Washington, de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les résultats se font toujours attendre. Les deux engagements de l'AFC M23, le retrait des forces rwandaises, le désarmement des FDLR et les cessez-le-feu peinent à se concrétiser, tandis que les combats se poursuivent au nord et au sud Kivu. Pourquoi le processus de paix n'avance-t-il pas? Nous en parlons avec Papi Kasereka, analyste de conflits dans l'est de la RDC.
Papi Kasereka, bonjour.
Bonjour Martial.
Plus de 7 mois après l'accord de Washington, pourquoi les engagements pris ne se traduisent-ils toujours pas par des avancées concrètes sur le terrain?
C'est notamment le fait que la méfiance ou les déficits de confiance minent les processus de paix et tropillent l'ensemble des efforts de paix. Et cela se traduit notamment de façon plus concrète par le fait qu'il y a les violations des cessez-le-feu. À cela s'ajoute aussi le fait que les belligérants ou les parties prenantes au conflit ont concentré les actions sur ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Ça signifie les groupes armés qui occupent des portions importantes du territoire sont très intéressés par l'économie illicite ou l'économie de la guerre parce que ça leur rapporte plus que lorsqu'il s'agirait d'un processus de paix. Un troisième facteur, c'est le fait que les pays de la région, dont un paramètre en lien avec la géopolitique, essaient d'inscrire leur propre agenda dans ces processus de discussion avec les groupes armés en RDC.
Les combats continuent malgré les cessez-le-feu et les mécanismes conjoints de surveillance. Où se situe aujourd'hui les principaux blocages?
Il ne suffit pas seulement de signer les accords, mais il est aussi important qu'on essaie de mettre en place des mécanismes pour vérifier les cessez-le-feu. Or, jusqu'à présent, vous savez que les mécanismes de vérification des systèmes de cessez-le-feu sur le terrain faisaient défaut, mais aussi il y a l'absence de sanctions parce que il ne suffit pas de signer les accords. Les accords ont des valeurs si et seulement si les parties prenantes au conflit vont effectivement respecter ces accords-là. Or, en diplomatie, nous savons que les accords sont signés de bonne foi et il n'y a pas donc des mécanismes de contraintes ou des sanctions automatiques qui obligeraient les parties à respecter les accords. Donc, on reste dans un système de bonne foi. C'est ce qui bloque effectivement les respects du cessez-le-feu.
Entre les désengagements de la FCM23, les retraits des forces de défense rwandaises et les désarmements des FDLR, quel est, selon vous, les dossiers les plus difficiles à débloquer dans ces processus de paix?
Ça se situe déjà au niveau des intérêts des parties. Parce que les intérêts des parties en conflit sont contradictoires, comme vous le savez. Les Rwandais vous disent par exemple qu'il est important pour eux, avant tout, qu'il y ait la possibilité de frapper les FDLR. Par contre, la position du gouvernement congolais, c'est qu'eux aussi, ils exigent le retrait des forces rwandaises sur le terrain. À cela s'ajoute le non-soutien au groupe groupe M23 et d'autres groupes armés qui sont sur le terrain. Or, le processus de paix ne peut que progresser si et seulement si les déclarations ou les positions des acteurs sont convergentes. Il est donc important, à mon sens, d'essayer de comprendre au-delà des positions, c'est-à-dire des déclarations manifestes des parties en conflit, d'aller essayer de comprendre leurs intérêts. Plus on comprend mieux les intérêts, les positions et les besoins des parties en conflit, plus il est possible d'élaborer un agenda des processus de paix pragmatiques et réalisables.
Les processus de Washington et de Doha peuvent-ils encore ramener la paix ou assister-t-on à une impasse diplomatique?
C'est le seul cadre des dialogues qui existe encore. Donc, les parties en conflit, il faut les maintenir dans les dialogues. Il faut que les gens continuent à se parler. Mais il ne suffit pas seulement de parler. Il faut donc aller au-delà de la parole. Ce qui suppose qu'il faut qu'il y ait des effets réels, des résultats concrets sur le terrain en termes des engagements. En d'autres termes, il faut donc passer de la dimension des accords qui ont été signés vers la dimension d'application de cesser les faits de façon plus concrète. Ce qui permettra donc de donner une certaine survie à ces processus-là.
Quelle serait, selon vous, la priorité absolue pour relancer réellement les processus de paix et arriver à un accord de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo?
Je pense qu'il est important de faire en sorte que nous puissions arriver à mettre les acteurs en conflit dans une situation de confiance. Il faut créer la confiance. Ce qui suppose pour que nous arrivions à confiance, il faut déjà que les acteurs commencent à respecter les engagements pour lesquels ils sont engagés. Il faut donc le respect des cessez-le-feu. Parce que le cessez-le-feu donnera l'opportunité aux acteurs en conflit de créer les conditions nécessaires pour le respect des accords qu'ils ont signés. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut mettre en place de façon très concrète les mécanismes de surveillance des cessez-le-feu pour lesquels les parties en conflit se sont engagées. La plupart des accords ont été violés ou les promesses n'ont pas été tenues. Il serait donc idéal, dans la mesure du possible, les médiations qui essaient de mettre des mécanismes de contraintes, qui aient des sanctions, des possibilités d'action. Ceci pourrait pousser effectivement les parties en conflit à respecter leur engagement et à les tenir.
Papi Kasereka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, Papi Kasereka, qui s'entretenait avec Papi Martial Moukeba, et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée préparé pour vous par Lievin Mbuinga et Jean-Désiré Kanyama. La mise en onde assurée par Jean-Claude Nsala, Mwanama Kengontswalo. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.